Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle chronique que nous propose Jordan Vial. Bonjour Jordan.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, on va parler Égypte et Kabbalah.
Voilà.
On t'écoute.
Je vous propose d'explorer dans cette 16e chronique comment les codes de la tradition égyptienne se superposent aux codes de la Kabbalah. Nous verrons qu'ils peuvent être compris comme deux langages d'un même mystère. Les grandes traditions de l'humanité nous apparaissent souvent comme très différentes les unes des autres, voire séparées, chacune traduisant sa version d'une cosmogonie, avec son dieu ou son panthéon de divinités, sa structure mythologique, sa perception des mystères de l'univers, tout cela coloré par le récit et le vécu des peuples, moule des croyances culturelles. Les traditions se montrent alors différentes dans leur forme, dans leur récit, dans leur langage. D'un côté, l'Égypte ancienne avec ses dieux, ses mythes, ses temples. De l'autre, la Kabbalah avec ses lettres, ses textes et sa structure très précise. À première vue, tout semble les distinguer. Et pourtant, si l'on regarde avec un peu plus d'attention, une autre possibilité apparaît. Et si ces traditions, si différentes en apparence, étaient en réalité nées d'une même source ? Non pas une source historique, au sens strict, mais une source plus profonde, une même intuition du réel, une même expérience de la conscience, une même tentative pour exprimer les secrets d'une création. Allons voir comment la puissante et grande intuition de l'Égypte ancienne trouve une correspondance étonnante dans la Kabbalah. Les grandes traditions ne sont pas simplement des systèmes de pensée apparus à des moments précis d'une histoire humaine. Elles sont les traces d'un processus beaucoup plus ancien. Un processus par lequel la conscience humaine apprend à se percevoir elle-même. La Kabbalah, dans ce sens, ne commence pas avec un texte, et encore moins avec des commentaires rabbiniques, aussi érudits soient-ils. La Kabbalah commence dès l'instant où la conscience devient capable de se regarder, de s'interroger, de chercher l'origine de ce qu'elle perçoit. Ce qu'on appelle Kabbalah, ici, n'est pas une tradition au sens religieux. C'est un mouvement de la conscience. Un mouvement par lequel l'un se révèle à la connaissance de lui-même dans le multiple. Et ce mouvement a pris, au fil des rythmes et des cycles de la conscience humaine, des formes très différentes. Des formes chamaniques, des formes symboliques, des formes mythologiques, puis des formes de plus en plus structurées. L'Égypte ancienne est l'un de ces moments. Un moment où la conscience plonge profondément dans une manière particulière de percevoir le réel. On pourrait dire un moment où la conscience est entrée dans un bain de perception, extrêmement particulier. Un bain fait d'images, de forces, de dieux, de cycles cosmiques. Dans ce bain égyptien, la réalité est perçue comme vivante. Tout est puissance, tout est relation, tout est manifestation d'un principe unique qui se décline. Il nous faut entrer un instant dans leur manière de voir le monde. Dans l'Égypte ancienne, le réel ne se divise pas entre matière et esprit. Il n'y a pas d'un côté le visible et de l'autre l'invisible. Tout est traversé par des forces conscientes. Le Nil n'est pas seulement un fleuve, le ciel n'est pas seulement un espace, la terre n'est pas seulement un sol. Chaque dimension du monde est l'expression d'une puissance vivante. Ces puissances, les Égyptiens les ont nommées, non pas pour les enfermer ou les contrôler, mais pour entrer en relation avec elles. Par exemple, Nun, l'océan primordial, indifférencié avant toute forme. Ré, la lumière qui apparaît, qui rend visible. Osiris, le principe de mort et de renaissance. Isis, la matrice, la force qui recompose, qui relie. Horus, la conscience incarnée, la vision. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces figures ne sont pas des êtres séparés au sens où on l'entend aujourd'hui. Ce sont des formes de perception. Ce n'est pas l'humain qui invente des dieux, c'est la conscience qui se perçoit elle-même à travers des formes. Dans l'Égypte ancienne, la conscience ne se pense pas encore en termes abstraits. Elle se voit, elle se vit, elle se raconte. Elle prend la forme d'une lionne, d'un faucon, d'un bélier, d'un ibis, d'un scarabée et de bien d'autres figures animales. Elle prend la forme d'un lotus, d'un papyrus, d'un fleuve, d'un soleil, d'un cycle de mort et de renaissance, d'une matrice vivante, d'un regard incarné. C'est toujours la même réalité, mais exprimée dans un langage où chaque image est un monde de force. Et c'est là que quelque chose de très profond apparaît. Lorsque l'on regarde ces formes, on commence à reconnaître une structure, un fond indifférencié, une lumière qui apparaît, une dynamique de transformation, une matrice qui organise, une conscience qui se voit elle-même. Et cette structure apparaît dans une lecture qui se superpose à celle qu'on appelle égyptienne. Là où l'Égypte personnifie le principe de Noun, de Ré ou d'Isis, la Kabbalah parle des lettres comme des éclats, des étincelles du grand feu ensemenceur qui anime toute chose. La Kabbalah crée des codes, ces lettres se combinent, elle parle de flux, d'architecture, du champ de conscience avec ses mondes fréquentiels et leurs jeux de force. Au fond, on parle de la même chose. La conscience a juste changé de langage. Elle est passée de l'image au principe, du mythe au code, de la vision à la structure. Et ce mouvement ne s'arrête pas là. On pourrait croire que la conscience évolue en passant d'un langage à un autre, comme si elle quittait un ancien monde pour en adopter un nouveau. Mais ce n'est pas tout à fait cela. En réalité, tout est là en même temps, comme des couches superposées, comme un feuilletage. Le mythe n'a pas disparu quand le code apparaît. L'image n'a pas disparu quand le principe se révèle. Tout coexiste. La conscience ne change pas de langage, elle change de point de lecture. Il existe un code source, une mémoire fondamentale du réel qui traverse toutes les formes d'expériences humaines. Ce code est à l'œuvre dans l'humain préhistorique qui enterre ses morts pour la première fois, dans le chaman qui dialogue avec les forces invisibles, dans les grandes civilisations comme les Mayas ou l'Égypte, dans le druide, le sage, le mystique, dans le kabbaliste du Moyen-Âge qui met en forme ce savoir, dans le philosophe et le physicien dit contemporain. Le code explose la temporalité. Tout est là, superposé. Les mondes ne sont pas séparés. Ce sont des niveaux de lecture d'un même réel. Ce qui change, ce n'est pas le code. C'est la manière dont la conscience se positionne pour le lire. Parfois, elle le voit sous forme d'images, de mythes, de récits. Parfois, elle le perçoit comme des forces, des présences. Parfois, elle commence à le structurer, à le nommer, à le décoder. Mais dans tous les cas, c'est toujours la même conscience qui tente de se reconnaître elle-même. Le code se lit lui-même à travers chaque conscience spécifique. Et c'est pour cela que l'on retrouve des correspondances entre toutes les traditions. Non pas parce qu'elles se copient, mais parce qu'elles sont traversées par une même intelligence, par une même vérité, par un amour inconditionnel. Dans ce feuilletage, l'Égypte ancienne occupe une place particulière, un moment où la conscience se révèle à travers son panthéon de divinités pour qu'à chaque dévotion, l'humain fasse vibrer sa propre cartographie de force à l'intérieur de lui. Quand la Kabbalah émerge de ce feuilletage, elle se sourit à elle-même. Et pour illustrer cette chronique, observons la trilogie originelle de la tradition égyptienne et son reflet dans le miroir de la Kabbalah. Tout commence avec Atum. Atum, le moment où l'un se contient lui-même. Atum est décrit comme auto-engendré. Il est insécable, indivisible. C'est le moment où rien n'est encore séparé. Tout est là, sans distinction. Ce n'est pas un vide. C'est une plénitude sans forme. Une totalité qui ne se distingue pas encore d'elle-même. Dans le langage de la Kabbalah, c'est la conscience avant qu'elle ne se regarde. Et c'est exactement ce que porte la première lettre. Aleph. Le pur silence, la présence sans séparation. Du sperme de Atum naît Chou, le principe masculin et l'ouverture de l'espace. Chou est celui qui sépare le ciel et la terre, mais au fond, il fait quelque chose de plus essentiel. Il crée un espace de différenciation qui n'est pas un lieu, mais une fonction, celle de permettre la perception. Chou introduit une distance, une tension, une possibilité de relation. Il est la vibration radieuse, irradiante et vivifiante. Pour la Kabbalah, c'est le moment où la conscience commence à se voir, et cela correspond à la lettre Shin. Shin est feu, intensité, vérité révélée, mouvement, différenciation. Il anime et ensemence. Il éclaire, irradie, illumine. Shin ouvre le champ de perception. Atum engendre Tefnout, le principe féminin à tête de lionne. Il exprime la condensation de l'expérience, puisque Tefnout est liée à l'humidité et donc à la condensation. Elle donne corps à ce qui était encore diffus. C'est le moment où quelque chose devient vécu, ressenti. Elle incarne l'ordre et l'harmonie. La conscience ne fait plus seulement que se voir, elle expérimente. Et dans la Kabbalah, cela correspond à la lettre Mem. L'eau, les ondes matricielles, le contenant, elle donne forme à l'expérience. Pour la Kabbalah, on n'est plus dans une hiérarchie, mais dans une dynamique. Trois états concomitants, superposés, toujours à l'œuvre. À chaque instant, quelque chose émerge du fond. Aleph. Se distingue. Shin. Devient expérience. Même. Ce n'est pas une histoire du passé. C'est ce qui se passe maintenant. Quand une pensée apparaît, quand une émotion surgit, quand une perception se forme, c'est toujours ce même mouvement. Atum, Chou, Tefnout, Aleph, Shin, Mem. Ce ne sont pas des concepts anciens. Ce sont des gestes de la conscience que nous vivons à chaque instant. Et c'est là que quelque chose devient fascinant. Parce que ce que l'Égypte a exprimé en images, la Kabbalah l'exprime dans les spectrogrammes de ses lettres, non pas pour dire autre chose, mais pour rendre ce processus lisible, transmissible et opératif.
Merci beaucoup, Jordan.
Merci, Patrick. Merci à tous.
À très bientôt. On remercie Georges Soupeau à la technique et Robert Hummel qui met en onde cette émission. À très bientôt, Jordan.
À bientôt.